explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Dans les montagnes d'Iran, il a accompagné une famille de bergers nomades lors d'une grande transhumance. Sur un minuscule couloir montagneux coincé entre le Tadjikistan et le Pakistan, il est allé à la rencontre de la communauté d'altitude la plus isolée de la planète. Et en Afghanistan, il a traversé à cheval la chaîne de l'Hindou Kush. Depuis une vingtaine d'années, le réalisateur et écrivain Louis Meunier arpente les montagnes d'Orient. Il a parcouru des paysages sublimes et fait des rencontres inoubliables sur ces territoires que la plupart d'entre nous connaît peu ou mal. Lorsque nous en entendons parler, le plus souvent, c'est dans les journaux ou à travers des guerres et les trafics de drogue qui les meurtrissent. Avec ses documentaires, Louis Meunier donne à voir un autre versant de ces montagnes et de leurs habitants auxquels il voue une véritable passion. Ses voyages et ses rencontres lui ont inspiré une série de nouvelles rassemblées dans un recueil intitulé « Si haute soit la montagne » qui vient de paraître aux éditions Kalman-Lévy. Cette fois, c'est donc par la fiction qu'il nous conduit des monts irakiens aux crêtes du Pamir, en passant par le plus haut sommet d'Afghanistan. Tour à tour, il se glisse dans la peau d'un jeune berger, d'un caravanier ou encore d'une alpiniste pour nous offrir des récits poétiques et bouleversants. Des récits qui nous ont donné envie de partir cet après-midi avec Louis Meunier dans les montagnes d'Orient à la rencontre de leurs habitants. Claire Tesser a préparé cette émission, Stéphanie Texier la réalise, avec à la technique aujourd'hui Elisabeth Collet. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
La montagne, elle, ne se dépensait pas en gestes inutiles. Montait, se reposait, montait encore, avec des assises puissantes, des flancs larges, des parois biseautées comme un joyau. Sur les premières crêtes, les tours des maisons fortes patanes luisaient comme frottées d'huile. J'entendais des cris d'enfants, très haut sur la vieille route des nomades, et de légers éboulis sous le sabot de chèvres invisibles qui résonnait dans toute la passe en écho cristallin. Devant cette prodigieuse enclume de terre et de roc, le monde de l'anecdote était comme aboli. L'étendue de montagne, le ciel clair de décembre, la tiédeur de midi, le grésillement du narguilé et jusqu'au sou qui sonnait dans ma poche, devenaient les éléments d'une pièce où j'étais venu, à travers bien des obstacles, tenir mon rôle à temps.
Extrait de l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Ce sont des montagnes situées à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan qui lui ont inspiré ces lignes. Bonjour Louis Meunier.
Bonjour Daniel Fievé.
Vous est-il arrivé dans ces montagnes de l'Asie centrale que vous avez également parcourues d'éprouver le sentiment et les sensations que décrit Nicolas Bouvier?
Ah, bien sûr, je suis parti sur les traces de Nicolas Bouvier, inspiré par ses lignes. Et pour la petite histoire, j'avais imprimé au-dessus de mon bureau, pendant tout le temps de l'écriture de mon recueil de nouvelles, l'extrait qu'on vient d'entendre.
Ouais, donc, on n'a pas fait exprès, hein, on le savait pas.
Très belle coïncidence.
Vous comprenez donc l'idée d'absolu et d'essentiel qu'il dit ressentir dans ces montagnes?
Oui, bien sûr, la montagne c'est vraiment un domaine dans lequel on se retrouve, on est confronté à l'immensité des choses, à sa petitesse aussi. Et Nicolas Bouvier raconte tout ça de manière absolument merveilleuse.
Alors les histoires que vous racontez dans votre recueil de nouvelles, Si haute soit la montagne, elles se situent dans des montagnes d'Afghanistan, d'Irak, jusqu'au contrefort de l'Himalaya. Il y a, selon vous, un point commun, quelque chose qui unit les habitants de toutes ces montagnes?
Oui, alors effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de commun à tous les montagnards, tous les gens qui habitent sur des crêtes, en dessous de sommets prodigieux, des gens qui sont exposés au cycle des saisons, des gens aussi qui partagent une certaine forme de spiritualité. Je trouve que c'est un trait commun effectivement à tous les montagnards du monde entier, et peut-être plus précisément de ces montagnes, puisqu'elles sont parmi les plus hautes du monde.
Ouais. Elles forgent le caractère des hommes et des femmes qui y vivent, ces montagnes?
Ah, bien sûr, la géographie façonne le caractère. Quand on voit le soleil quelques heures par jour seulement, qu'on est soumis aux intempéries, aux tempêtes, on a une espèce d'humilité vraiment ancrée dans les gènes, une espèce aussi d'amour pour la simplicité des choses. On s'attache à la valeur d'un feu de bois, d'un fromage, toutes ces petites choses simples qui font la civilisation, la valeur des rencontres aussi. On aime partager parce qu'on apprécie à sa juste valeur la force des rencontres humaines.
Vous parlez de civilisation, c'est pas par hasard, parce que quand on évoque ces montagnes, on a l'impression d'être aux confins du monde, hein, au bout de nulle part. Or, l'histoire des civilisations qui vivent là, elle est riche, elle est longue.
Oui, alors effectivement, on compare ces endroits au bout du monde, très souvent. Ouais. Pour moi, c'est plutôt le centre du monde.
Et oui.
Il faut savoir que, pour parler de l'Afghanistan, mais c'est vrai aussi pour le Pamir Tadjik, pour une partie de l'Himalaya, que ces chaînes de montagnes se situaient aux confins des empires. Donc, ils ont été influencés par les royaumes gréco-bactriens, ils ont été influencés par les Perses, par les Chinois, par les Indiens. Et ces empires se sont vraiment entrechoqués contre les pentes de ces montagnes. Et ont laissé des vestiges, ont laissé des traces qu'on retrouve dans les habitudes, dans les coutumes, dans la culture de tous ces peuples.
Alors, vous vouliez parler de ces peuples au-delà de ce que l'on en perçoit à travers les courts reportages ou les brefs articles qui évoquent les conflits dans ces lieux. Vous vouliez nous montrer un autre aspect.
Oui, alors moi je suis pas journaliste, je laisse le soin aux journalistes qui font très bien leur travail par ailleurs de raconter ce qui se passe dans ces régions du monde. Moi j'ai eu la chance de sortir des sentiers battus et d'accéder à des zones où très peu d'étrangers vont. Et voilà, je voulais raconter ça, sortir des clichés parfois un peu réducteurs, des trilogies Opium, Taliban, Burqa par exemple pour l'Afghanistan, et montrer que derrière il y avait des peuples avec des habitudes très très riches, des traditions millénaires, une certaine spiritualité, beaucoup de poésie effectivement dans leur manière de vivre.
C'est vrai que plusieurs de vos nouvelles se situent en Afghanistan. Vous avez découvert ce pays en 2002, vous aviez 23 ans et vous vous y rendiez avec une ONG pour de l'aide humanitaire. Alors à cette époque, pour resituer un petit peu, une coalition internationale venait de chasser les talibans du pouvoir en 2002. Quel souvenir vous gardez de votre rencontre avec ce pays et ses habitants ?
Des souvenirs très forts, très prégnants. Moi, j'étais jeune, frais et moulu de mon école de commerce. Je venais de terminer mes études. Pour la petite histoire, je devais partir au Tadjikistan. J'avais répondu à une annonce pour développer l'économie du yak dans une base d'altitude. Et finalement, m'ont envoyé en Afghanistan. Ouais. Et moi, je rêvais de ce pays dont j'avais lu les enchantements dans les récits des voyageurs. Et ma famille aussi a passé du temps en Afghanistan. Une partie de ma famille est installée en Inde. Auparavant, elle était en Iran. Donc pour moi, c'était une chance de découvrir un pays qui avait été fermé pendant très longtemps aux voyageurs. Ouais. Et c'était prodigieux dans tous les sens du terme.
Alors, un autre écrivain avant vous a été fasciné, subjugué par l'Afghanistan et la culture de ce pays. C'est Joseph Kessel. Ce qu'il a vécu dans ce pays lui a inspiré son roman Les Cavaliers. Ce roman, vous l'avez lu sur place, en Afghanistan. Et vous dites qu'il a fait basculer votre vie. Pourquoi ?
Ah oui, effectivement. Parce que je débarquais en Afghanistan avec un contrat de 6 mois pour participer à l'effort de reconstruction après la chute du régime taliban. Et j'étais affecté à une petite ville du nord du pays, à 3 jours de route de Kaboul, Maïmena, et qui se trouve être le berceau du sport local qu'on appelle bouskashi, littéralement l'attrape-chèvre, qui est un sport équestre. Et avant de partir, un ami m'a donné un livre, Les Cavaliers, en me disant « Ça se passe dans ta base, ça se passe chez toi, ça devrait te plaire. » Et effectivement, j'ai tourné les pages de ce livre et j'ai été totalement, immédiatement subjugué par les pages de Kessel, par l'action qu'il racontait, et j'ai décidé de découvrir le bouskashi.
Alors ce bouskashi, le héros du livre des Cavaliers de Kessel, Ouroz, est un joueur de bouskashi, ce sport très populaire en Afghanistan. Les participants sont sur leur cheval, ils s'affrontent pour attraper la dépouille d'une chèvre remplie de sable. Joseph Kessel avait été très impressionné par les affrontements entre joueurs de bouskashi que l'on appelle les chopendos en Afghanistan.
Échappée, poursuite, tonnerre des galops, accrochage sans merci, et coule le sang, tombent bêtes et hommes, et la charge reprend dans une extase, un délire barbare. Dans leur déchaînement, les centaures ne respectent rien ni personne. C'est dans ce cadre et ce feu que j'ai vu jouer les chopendos légendaires. Et je leur dois la reconnaissance la plus profonde pour avoir inspiré et nourri les cavaliers celui de mes livres auquel j'ai donné le plus long de mon temps et mon effort le meilleur.
La voix de Joseph Kessel qui considérait Les Cavaliers comme son livre testament. Que raconte ce roman dans les grandes lignes, Louis Meunier ?
Dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'un joueur de bouskashi qui va défendre les couleurs de sa province à Kaboul à l'occasion du jeu que le roi d'Afghanistan organise pour son anniversaire. Et son équipe gagne le tournoi, mais lui ne parvient pas à s'illustrer en marquant un point. Et pour conjurer la honte de la défaite face à son père qui l'attend dans la province, sa province d'origine, il décide de rentrer chez lui à cheval par la route du centre, la route des montagnes.
Alors, Kessel vous a transmis sa fascination pour le bouskashi, ce sport, Louis Meunier. Vous êtes vous-même devenu Chopendoz, vous avez fait partie pendant 3 ans de l'équipe de bouskashi de Kaboul. Ça vous a valu une cheville foulée, un œil au beurre noir, enfin, vous avez payé de votre personne parce que c'est un sport rude, sur les chevaux, on s'affronte durement. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a donné envie de concourir?
J'ai bien du mal à répondre à cette question encore aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un jeu vraiment spectaculaire. D'ailleurs, on dit que on ne peut pas comprendre l'Afghanistan sans assister à tournoi de bouskashi. Il n'y a pas de limite au nombre de joueurs. Les chevaux sont dressés pour cabrer, pour ruer, pour mordre. Les cavaliers sont vraiment des combattants. Ce sont les mêmes qui résistaient à l'envahisseur soviétique, qui chargeaient sur leurs chevaux contre les chars russes. C'est un jeu qui est peut-être hérité des hordes de Genghis Khan qui dévastaient les villages au galop en arrachant les femmes et le bétail à la volée. Voilà. Alors moi, ça s'est fait très graduellement. D'abord, je voulais assister à un bouskashi. Et puis ensuite, moi qui suis cavalier, j'ai décidé d'y participer. Et effectivement, ça a été une longue entreprise qui a duré 10 ans finalement.
Ouais. Alors, vous le disiez, le héros de Kessel, Ouroz, après avoir perdu au bouskashi, part pour un grand périple à travers une chaîne de montagnes de l'Afghanistan, l'Hindou Kush. Et vous avez, vous aussi, voulu refaire ce trajet à cheval. Vous allez nous raconter cette traversée et nous emmener dans les autres chaînes de montagnes qui vous ont inspiré les nouvelles de votre recueil. Cet après-midi, de l'Afghanistan au Pamir, en passant par l'Iran, l'écrivain et documentariste Louis Meunier nous emmène tutoyer les cimes à la rencontre des habitants de ces montagnes méconnues. Le temps d'un bivouac sur France Inter. suis la montagne. C'était Moudouide sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Partout où je passe, je retrouve la magie des pages des cavaliers. Ici, on ne parle pas en nationalité, mais en peuple. On ne compte pas en kilomètres, mais en jours de route. Et quand on se quitte, on se dit Zendabashi, sois vivant, parce que l'existence est incertaine. J'apprends la langue locale, le persan, et j'explore la région. Je comprends le coup de cœur que Kessel a éprouvé.
L'emprise, l'envoûtement dont là-bas j'ai subi le pouvoir, tout de suite, entièrement et pour toujours, à quoi les attribuer? Était-ce la diversité d'un pays qui porte en même temps neiges éternelles, pleines d'herbes infinies, déserts brûlants, vallées féeriques?
La voix de Joseph Kessel résonne à nouveau dans le temps d'un bivouac. C'était un extrait d'un documentaire que vous avez réalisé, Louis Meunier, intitulé « Les cavaliers afghans sur les traces de Joseph Kessel en Afghanistan ». Film dans lequel donc vous racontez cette traversée à cheval que vous avez faite à travers la chaîne de l'Hindou Kush en Afghanistan, sur les traces d'Uroz, le héros des cavaliers de Joseph Kessel. Vous n'aviez à cette époque à votre disposition que quelques cartes sommaires datant de l'époque soviétique, du temps où elle occupait le territoire. Quel souvenir vous gardez de cette aventure ?
Des souvenirs très forts, encore une fois, parce que c'était une aventure un peu saugrenue, un peu folle. Aller faire du tourisme en Afghanistan, dans un pays en guerre, ça, c'est pas une idée qui venait à tout le monde. J'ai vraiment rencontré les Afghans du milieu, les Afghans du cœur du pays. J'ai vu des paysages fantastiques.
Ouais, et puis paysages grandioses. Hein. Ouais. Prenez le temps de les décrire, parce que dans votre film, on les voit. Alors, on a mis quelques photos aussi que vous nous avez gentiment offertes sur la page Instagram du temps d'un bivouac. Mais vraiment, ces montagnes sont méconnues et ce sont des joyaux. Elles sont sublimes, ces montagnes afghanes.
Ouais. Je suis très heureux d'avoir réussi à en montrer une petite partie de la beauté dans mes photos. Effectivement, moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et je dois dire qu'en Afghanistan, j'étais émerveillé devant les tableaux de montagne. Ce sont vraiment des tableaux et avec beaucoup, beaucoup de couleurs. La montagne qui prend des teintes orangées, violacées, de toutes les couleurs. Puis ça change au fur et à mesure de la journée en fonction du soleil qui passe dans le ciel. Il y a des lacs d'altitude, les lacs de Bandi Amir aussi, qui sont perchés à 3500 mètres. Ce sont vraiment des joyaux turquoises qui sont enceints dans des vasques en travertin. Mmh. C'est très, très beau. Il y a vraiment toute une variété de paysages et c'est absolument magnifique.
Des canyons, des parois vertigineuses, des chemins creusés dans la roche accrochés aux falaises. Et au fur et à mesure que vous avancez, le récit de Kessel prend vie sous les sabots de votre cheval.
Coulée de pierres traîtresses, pistes et sentes réduites à la minceur d'un corps, degrés disposés de façon à rompre les os, gouffres subtilement ouverts au détour d'un défilé. Jamais une ligne droite. Plane, sûre, la moindre faute que bronche un pied, se dérobe un genou, porte à faux le torse, et la mort était là, qui attendait avec sa gueule béante, insondable de vertige et de solitude.
Extrait des cavaliers de Joseph Kessel. Lui ne l'a pas faite, traversée. C'est à travers les récits des Afghans qu'il a décrit cette grande traversée.
Oui, effectivement, il s'est contenté de l'imaginer. Et j'étais très surpris, en traversant l'Afghanistan à cheval, de voir à quel point il avait été juste, en fait. Et il parle de ces sentes très étroites, à flanc de coteaux. Voilà, donc les pages des cavaliers m'ont vraiment accompagné, bercé pendant toute ma traversée.
Quel risque vous preniez exactement en traversant ces montagnes, Louis Meunier ?
Le premier risque quand on fait du cheval, c'est l'accident de route. Ouais. D'ailleurs, mon compagnon de route n'était jamais monté sur un cheval. Et ça, j'ai découvert le premier jour, jour où on est parti. À l'accident de montagne aussi, parce que la chute est très vite arrivée. Et puis après, c'était le Ramadan, donc on avait très peu à manger. Mmh. C'était des années de sécheresse, donc les Afghans qui nous accueillaient avaient aussi très peu à nous offrir. Ouais. Et puis c'est des régions qui connaissaient beaucoup de tensions, de guérillas internes, de jalousie entre d'une vallée à l'autre exprimée avec les armes. Donc le danger, c'était de se retrouver entre les feux croisés de commandants opposés.
Mais vous avez surtout eu affaire à l'hospitalité finalement des villageois que vous avez rencontrés sur votre route. Vous dites qu'ils n'avaient pas grand-chose à offrir, mais le peu qu'ils avaient à offrir, ils vous l'offraient. C'est une règle, hein, l'hospitalité dans ces montagnes.
Oui, tout à fait. L'hospitalité, c'est vraiment la règle cardinale de la vie en Afghanistan. Les Afghans, avant d'être musulmans, ont été bouddhistes, ils ont été païens, etc. Et finalement, c'est comme si tout ça avait donné un syncrétisme assez original, dont la règle cardinale est vraiment l'hospitalité. C'est la loi la plus importante pour les Afghans.
Alors, chacune des nouvelles de votre recueil intitulé « Si haute soit la montagne » paru chez Kalman Levy a été inspirée par ces rencontres et ces expériences que vous avez vécues dans ces montagnes d'Orient. La nouvelle intitulée « Là-haut » par exemple, a été inspiré par une vraie aventure, une autre, que vous avez vécue sur le plus haut sommet d'Afghanistan. On change de montagne, cette fois-ci, nous sommes sur le Noshak, qui culmine à plus de 7000 mètres. Et vous avez organisé, en 2009, là aussi on était encore en temps de guerre, vous avez organisé une expédition pour que 4 alpinistes afghans atteignent ce sommet. À cette époque, aucun Afghan n'avait encore gravi ce sommet. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ?
Mais parce qu'aucun Afghan n'avait jamais été là-haut, ouais. Et qu'il fallait envoyer un message d'espoir à un pays qui allait de mal en pis, un pays dont on parlait que de manière négative à travers le prisme des talibans. Et puis, oui, l'idée, c'était de faire un clin d'œil à l'histoire en permettant des Afghans de dérouler leur drapeau là-haut. Alors, c'était une très, très grande aventure. Ça a pris énormément de temps. On a fait face à 1000 péripéties, 1000 écueils. Et finalement, le 19 juillet 2009, très précisément, le drapeau afghan a été planté là-haut.
Ouais. Alors, parmi les 4 Afghans qui ont tenté cette ascension, il y a Malang Daria. Je vous propose de l'écouter. C'était en 2009, donc quelques jours avant d'entamer l'ascension du Noshak.
Nous arriverons au sommet si Dieu nous aide. Nous serons les premiers Afghans.
Il y a 30 ans, quand j'étais un enfant, mon père me racontait que les touristes venaient ici pour gravir le Noshak. Ils devenaient des champions dans leur pays. Je rêvais de devenir un alpiniste pour avoir une chance de gravir la montagne avec les touristes. J'ai de la chance puisque je suis devenu alpiniste. Si je deviens le premier Afghan à franchir le Noshak, je serai connu. Et mon nom survivra longtemps après ma mort.
Extrait de votre documentaire « 7000 mètres au-dessus de la guerre », Louis Meunier, parce que quand vous avez mené cette expédition, le pays était en guerre. Et on le comprend en entendant cet Afghan, c'était plus que symbolique cette ascension. D'ailleurs, alors que vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, vous êtes au camp de base, vous avez un coup de fil, le ministère de la Culture vous interdit d'atteindre le sommet parce que entre ethnies, on ne veut pas que n'importe quel Afghan soit le premier à monter là-haut. C'est très politique.
Oui, c'est très politique, effectivement. L'Afghanistan, c'est Afghanistan, ça veut dire le pays des Afghans, des Pashtuns, littéralement. Mais il y a aussi une myriade d'autres ethnies, des Tadjiks, des Hazaras, des Ouzbeks, des Turkmènes et des Waris. Donc, ces Ismaéliens pacifiques du nord du pays qui sont ceux qui ont participé à cette expédition. Donc, effectivement, on a dû affronter toutes ces dissensions internes. On a dû contourner un champ de mines antipersonnel. On a dû faire face à la montagne, surtout, parce que la montagne est pleine de dangers dès qu'on dépasse une certaine altitude. Ouais.
Et cette histoire et ces dangers que vous avez eu à affronter, eh bien, on sent qu'elle a inspiré une de vos nouvelles. La nouvelle s'intitule « Là-haut ». Je donne le point de départ. Très honnêtement, c'est une de celles qui m'a le plus ému, cette nouvelle. Et elles sont toutes pourtant formidables. Alors, le point de départ, c'est une alpiniste française qui part à l'assaut de ce sommet. Elle est prise dans une avalanche. Elle se retrouve gravement blessée au fond d'une crevasse. Et au camp de base l'attend un berger de 16 ans, afghan bien sûr, qui l'a accompagnée jusque-là. Elle lui a interdit de la suivre plus loin car il n'est pas assez expérimenté. Et on va vivre cette histoire. Lui, il voit bien qu'elle ne revient pas, donc il se demande est-ce qu'il faut que j'aille la chercher ou pas. On comprend toutes les raisons pour lesquelles c'est important pour lui que cette histoire se termine bien. Et on vit cette histoire du point de vue de l'alpiniste, du fond de sa crevasse, et de ce berger afghan plein d'espoir pour un futur meilleur, de devenir un guide de haute montagne. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre histoire personnelle pour écrire cette histoire ?
Eh bien, beaucoup de choses. Alors déjà, cette problématique est celle évoquée par le jeune alpiniste oui. Malang tout à l'heure. Cette problématique plane sur le monde de l'alpinisme depuis des décennies. Elle s'effrite beaucoup aujourd'hui. On voit de quoi les Népalais sont capables. Mais pendant longtemps, les sommets étaient réservés aux étrangers. Et les locaux, qu'ils soient Sherpas au Népal ou qu'ils soient Afghans, étaient cantonnés au camp 3, au camp 4, mais n'avaient pas le droit d'accéder au sommet. Et du coup, je voulais traiter un petit peu de ça aujourd'hui. C'est un peu la revanche de mon expédition au Noshak, c'est ouais. que finalement les Afghans ont été capables eux aussi de monter jusque là-haut pour poser leur propre drapeau. Donc voilà, je dirais que ça c'était un peu le moteur, le ressort principal de l'histoire. Après, nous on a vécu beaucoup de péripéties sur les pentes de la montagne, notamment ouais. un départ d'avalanche. Ouais. Et c'est ce que je raconte finalement à travers les yeux de cette jeune alpiniste qui cette fois-ci risque de tout perdre face à la montagne.
Oui, parce que lorsque vous y étiez d'ailleurs hein, dans le film que vous avez tiré de la vraie expédition, on voit l'un des guides français qui vous accompagnent, qui voyant justement la montagne prendre une forme un peu dangereuse, qui se strie, qui laisse envisager un départ d'avalanche, il dit « aucune montagne ne vaut que l'on n'en revienne pas ». Et on sent qu'il y a cette question, d'ailleurs, votre alpiniste du fond de sa crevasse, elle remet en cause aussi un petit peu ce qu'elle est venue faire sur cette montagne.
Et bien sûr, c'est des questions existentielles. Ce sont les questions que se posent tous les alpinistes, quoi. Un bon guide de montagne, c'est un guide âgé, c'est un guide qui est toujours revenu chez lui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de folie, frénésie qui s'empare des alpinistes quand on arrive au-delà d'une certaine altitude. On est aimanté par le sommet et on est prêt à tout pour arriver au sommet.
Ouais. Et évidemment, vous mettez ça en parallèle des espoirs de ce jeune berger. Et c'est vrai que en regard le cheminement de l'alpiniste qui vient là pour le dépassement de soi, pour un peu pour le plaisir, par envie, paraît bien dérisoire par rapport aux espoirs fondamentaux du jeune berger.
Oui, bien sûr. Pour toutes ces populations qui habitent au pied des montagnes, l'alpinisme, c'est une manière de survivre, en fait, de gagner de l'argent, de nourrir sa famille, de construire des projets et aussi de gagner un nom. Les étrangers vont et viennent, passent rapidement, les locaux restent. C'est un petit peu ce que j'ai voulu raconter à travers ces destins croisés, l'apprenti alpiniste afghan et puis l'alpiniste étranger.
Le dénouement de votre nouvelle m'a ému aux larmes. Je n'en dirai pas plus, je laisserai les auditeurs découvrir le récit que vous avez inventé autour de votre expérience. On retrouve dans plusieurs de vos nouvelles la réalité de la vie de ces montagnards, bergers, nomades ou ermites. Nous allons poursuivre avec vous, Louis Meunier, nos ascensions dans les montagnes d'Asie d'Orient. Et dans un instant, nous allons nous rendre avec vous dans la communauté d'altitude la plus isolée de la planète. My sweet Lord, will you help me leave the darkness behind? So far beyond, such a crime. It's been running, it's been running. And that's why Tell me how bad I am. C'était Animal Triste sur France Inter.
S'il y avait une route, ce voyage nous prendrait 2 jours. Mais il nous faut 6 ou 7 jours pour aller jusqu'à Sarad. Et autant pour revenir. Les dangers sont nombreux. Si on marche sur le flanc de la montagne, on risque de glisser avec le cheval. Et un cheval, ça vaut 20 moutons. Il peut tomber et mourir. Si on marche sur la rivière gelée, alors la glace risque de se casser. Les yaks peuvent tomber à l'eau et passer. Et puis quand il neige beaucoup, on risque de se faire emporter par une avalanche. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix.
Extrait de l'un de vos documentaires, Louis Meunier, prisonnier de l'Himalaya, ce chemin semé d'embûches dont nous parlait ce Kirghiz d'Afghanistan. C'est celui qu'il doit faire pour rejoindre la ville la plus proche. Où vit-il exactement, ce Kirghiz ?
Alors, les Kirghiz d'Afghanistan habitent au bout d'un corridor de montagne très étroit. Parfois, à certains endroits, il fait quelques kilomètres de large, mais il fait 250 kilomètres de long. Et eux, ils habitent tout au bout, dans un couloir de montagne qui est enserré entre le Pakistan, le Tadjikistan et la Chine. Et eux, par le jeu des empires, des frontières, se sont retrouvés du côté afghan. Du coup, pour s'approvisionner, il doit cheminer sur une rivière gelée pendant près d'une semaine pour aller se ravitailler, pour accéder à un centre de soins, par exemple. C'est un chemin de tous les dangers.
Ces Kirghiz d'Afghanistan, ils forment la communauté d'altitude la plus isolée de la planète. Et vous le disiez, hein, c'est vraiment le jeu des empires qui entourent ce couloir de montagne qui a conduit à ce qu'ils se retrouvent là, mais ce sont un peu des prisonniers de la montagne.
Oui, exactement, mais c'est ce qu'on appelle la période du grand jeu, the great game en anglais. L'Empire britannique, la couronne et les Russes s'affrontaient, avançaient leurs pions jusqu'au milieu de ces montagnes, et il a été décidé d'un commun accord de ménager une zone tampon qui a été dévolue à l'Afghanistan. Ouais. Et ces nomades, ces Kirghiz qui avaient l'habitude de traverser les frontières librement, se sont retrouvés finalement prisonniers de ces lignes invisibles. Donc c'est pour ça que le film s'intitule Prisonnier de l'Himalaya.
Et ils vivent, vous le dites, dans un passé lointain, comme les ancêtres. Quel est leur mode de vie exactement ?
Écoutez, ils habitent entre 4000 et 4500 mètres d'altitude, donc absolument rien ne pousse.
Pas d'arbres ?
Les étés sont extrêmement courts, si on peut parler d'été. L'hiver dure 8 mois, il gèle tous les jours de l'année. Donc ils subsistent grâce à leur yak, et ils mangent des laitages et de la viande. Mmh. Et une fois ou deux par an, ils montent une caravane pour aller voir les Waris qui habitent donc à l'extrémité de ce corridor du Waran, pour échanger leur viande contre du blé dont ils font de la farine.
Parce qu'ils ont, hein, bien sûr des contacts avec le reste du monde, mais ils ont une certaine fascination pour ce monde lointain, occidentalisé. Extrait d'une conversation que vous avez filmée, Louis Meunier, entre deux d'entre eux, le soir au coin du feu.
Si on avait des commerces, on pourrait travailler. On pourrait étudier et savoir ce qui se passe dans le monde. Nous n'avons pas d'école, juste quelques troupeaux, nous sommes bergers. J'ai vu comment ça se passait dans les pays étrangers. Ils n'ont pas de bergers, ils font le tout avec des machines.
Tu dis n'importe quoi, Orunbay. Ils ont forcément des bergers à l'étranger. Ce n'est pas possible de vivre sans berger.
Je sais bien comment ça se passe. Ils gardent leurs troupeaux avec des ordinateurs. C'est comme ça.
Mais non.
Louis Meunier, quel regard portent les Kirghiz d'Afghanistan que vous avez rencontrés sur nos sociétés occidentalisées ?
Ben ça les fait beaucoup rigoler, ça les intrigue. Ouais. Y a une certaine naïveté, une certaine fraîcheur. Et depuis quelques années, on voit la pénétration du téléphone portable apporte beaucoup, beaucoup d'images. Ouais. Donc finalement, ils ont quand même une compréhension très fine de notre mode de vie et beaucoup de justesse dans leur jugement.
Ouais. Certains rêvent de partir, hein, tout de même, de l'exil. C'est un peu le questionnement qui est dans toutes les familles nomades qui vivent là.
Oui, bien sûr. Ben alors ici et là-bas, moi j'ai retrouvé ça dans beaucoup de pays que j'ai traversés, effectivement. vraiment le dilemme, c'est soit rester mais vivre dans des conditions très difficiles, proches de la survie, soit partir. Mais dans ce cas-là, partir, c'est souvent oublier son identité, renier sa culture, quitter son mode de vie ancestral, sa famille, etc.
Faut préciser quand même que, d'abord, évidemment, ils ne sont pas très riches, mais surtout l'opium fait des ravages dans ces communautés. Certains dilapident leur fortune, c'est-à-dire leur troupeau, pour se procurer de l'opium. C'est un peu le seul médicament, mais en fait, c'est ce qui ruine leur santé.
C'est exactement le seul médicament dont ils disposent. Il n'y a pas d'aspirine, il n'y a absolument rien. Donc on se soigne avec ça, on soigne les nouveau-nés avec ça. On prend le résidu aqueux qui se trouve au fond de la pipe après avoir fumé. Et on humecte les lèvres des nourrissons avec ça. Soit ils y passent, soit ils survivent. Et tout ça développe beaucoup de problèmes d'accoutumance, notamment des mères droguées qui allaitent leur nourrisson, qui du coup est dépendant. C'est assez terrible, c'est un vrai fléau.
Oui, c'est un vrai fléau. Alors l'un des récits de votre recueil de nouvelles se situe dans ce couloir du Warhan avec... Alors c'est l'histoire d'un jeune médecin qui, suite à une peine de cœur, peut-être pour de mauvaises raisons, décide d'aller à la rencontre de ces Kirghizes pour leur apporter des vaccins, puisqu'il connaît leur situation sanitaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire, Louis Meunier ?
Eh bien, la réalité, encore une fois, c'est l'endroit du monde avec les taux de mortalité infantile et maternelle les plus élevés de la planète. Un enfant sur deux meurt avant l'âge de 5 ans. L'espérance des femmes est de 32 ans. Une femme sur trois meurt en couche. Donc, c'est vraiment des conditions terribles, ouais. Absolument terribles. Et j'ai rencontré un médecin qui partait là-bas avec l'idée de vacciner la communauté, ouais. Les enfants.
Alors, sans dévoiler toute l'intrigue, on peut quand même dire qu'elle montre que malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir quand on est un occidental humanitaire, les choses ne se passent pas toujours aussi simplement qu'on l'avait imaginé. C'est quelque chose, vous aussi, que vous avez ressenti en tant qu'humanitaire, puisque vous êtes allé au départ pour 6 mois avec une ONG, et puis finalement vous êtes resté 10 ans en Afghanistan. Mais parfois, les bonnes intentions ne suffisent pas.
Oui, bien sûr. Souvent, les programmes humanitaires sont décidés dans nos capitales occidentales, sans concertation avec les autorités locales, sans prise en compte des problématiques locales, de la culture, etc. Mmh. Et parfois, on arrive avec des solutions qui sont absolument pas adaptées et même qui se retournent contre les populations, qui créent plus de mal que de bien.
Alors, il faut aussi dire que la vie des femmes chez les Kirghizes afghans est très difficile. Les mariages sont à ranger, les femmes sont échangées d'une famille à l'autre contre des moutons ou contre d'autres femmes. Et dans vos nouvelles, Louis Meunier, j'ai l'impression que vous prenez un peu le contre-pied de cette réalité des femmes dans ces pays, puisque vous racontez de très très belles histoires d'amour où justement les couples s'affranchissent des règles en vigueur, de la bienséance, vont à l'encontre des normes sociales locales. C'est parce que vous avez eu vent de ces histoires ou c'est parce que dans ces montagnes, vous vous êtes pris à rêver que l'amour soit possible ?
Non, là encore une fois, je crois que je me suis inspiré de la réalité. C'est-à-dire que dans ces pays où la première considération, c'est survivre, nourrir sa famille, lui procurer un toit, l'amour est une considération vraiment secondaire, accessoire. Et en même temps, la jeunesse n'a que ça pour s'échapper. Donc, l'amour nourrit les rêves de toute cette jeunesse afghane, et pas que afghane d'ailleurs. Et je voulais raconter un petit peu ça, effectivement, parfois prendre les yeux, le regard et la parole d'une femme, d'une afghane, ou raconter les rêves de toute cette jeunesse.
Allez, on va quitter un peu l'Afghanistan dans la dernière partie de cette émission. Nos pas vont nous mener en Iran, Louis Meunier, dans un instant, dans des montagnes où vous avez suivi une longue transhumance avec toute une famille de bergers. Vous êtes bien sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je voudrais te revoir, te dire tout bas des choses maladroites que l'on ne dit qu'une fois, mais te les dire à toi et t'ouvrir grand mon âme pour t'offrir enfin tout. Tout ce qu'il faudra, les rires, la flamme, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh. Et nous nous connaissons depuis 100 ans déjà. Oui, nous nous dirons tout, nous ne faiblirons pas. Je me plierai à tes ordres, je serai fou de toi. Au doute, à la discorde, je dirai, souviens-toi, les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraint d'aucune loi. Et j'ai l'ennui de toi. Oui, j'ai l'ennui de ça. Je m'abandonne à toi. Oh. Les rires, la flamme. Je m'abandonne à toi.
Je m'abandonne à toi. C'était Baptiste Hamon et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Notre prophète était berger. Il disait que c'était le métier le plus beau et le plus dur. Nous vivons au rythme des saisons. Quand le temps devient froid, on va dans un endroit plus chaud. Quand il fait trop chaud, on retourne vers le froid. Nous sommes les derniers vrais nomades. Dans 5 ou 10 ans, quand on ne sera plus là, ce sera terminé. Il n'y aura plus de nomades. Nous sommes les derniers et nous sommes vieux.
Extrait d'un très beau documentaire, Nomade d'Iran, l'instituteur des monts Zagros, réalisé par notre invité Louis Meunier. Alors c'est toute une famille de bergers nomades que vous avez suivis dans ces montagnes iraniennes cette fois. Alors c'était pendant une longue transhumance. Ils se présentent, on l'entendait, hein, eux-mêmes comme les derniers nomades. Qui sont-ils ces nomades que vous avez suivis ?
Alors ils s'appellent les Bartiari. Littéralement ça veut dire ceux qui ont de la chance. Et les Bartiari, en fait, forment le plus gros groupe nomade du monde. Ils sont 3,5 millions à transhumer avec leurs troupeaux. Mais ils sont plus que quelques milliers à faire la transhumance de manière traditionnelle, à pied, en traversant de part en part la chaîne des Monts Zagros. Et moi, j'ai cherché, au cours de plusieurs sessions de repérage, une de ces familles d'irréductibles. Et quand j'ai rencontré Monsieur Mortari, que vous avez entendu tout à l'heure, je me suis dit avec certitude que c'était la bonne famille.
Ouais. À quoi ressemblent ces monts Zagros où vous avez marché avec cette famille ?
Alors les monts Zagros, c'est très très grand, hein. Ça va, ça traverse vraiment l'Iran de bout en bout. Mais c'est très très beau. Il y a des cols à 4 500 mètres d'altitude, des paysages aussi très très verts, des vallées fertiles, des rivières. C'est très très beau. Ouais.
On va mettre une des photos que vous avez prises, justement très verdoyante, sur la page Instagram du Temps d'un bivouac. Alors le personnage central de votre documentaire, c'est un instituteur qui accompagne la famille de bergers pour faire la classe aux enfants de la famille pendant les moments où la caravane s'arrête. L'instituteur est épuisé, les conditions sont rudes hein, pendant cette traversée. Les enfants sont d'une force et d'une énergie incroyables. C'est un rêve pour un documentariste, cette histoire.
Oui, bah alors, je cherchais sous quel angle raconter l'histoire. Je voulais pas seulement faire la transhumance, je voulais raconter la transhumance. Et quand je suis arrivé dans cette famille, à côté, il y avait un instituteur qui faisait la classe, qui est lui-même descendant de Barthiari, mais qui s'était sédentarisé et qui voulait revivre le mode de vie de ses ancêtres et donc qui a décidé cette année de faire la transhumance avec les enfants. Et donc les enfants, c'était très dur pour l'instituteur parce que c'est la première fois pour lui, mais c'est aussi très dur pour les enfants parce que les enfants cavalent à travers la montagne 8, 10 ou 12 heures par jour. Et le soir, quand on arrive au camp, à la halte, il faut faire la classe, suivre les cours.
Ouais. Alors l'instituteur, il fait travailler ses enfants dans des conditions, vous le dites, hein, compliquées, en pleine montagne, avec le troupeau pas loin. Et il est très admiratif des capacités et des savoirs de ses enfants de berger.
Ah oui, mais moi aussi. Vraiment, ça, moi, pour moi, ça remet en cause tous les préceptes de notre éducation occidentale. Ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, très jeunes, avec beaucoup de responsabilités. Hein. Parfois, ils partent le matin, ils doivent garder 200 brebis et ils savent qu'ils doivent retrouver leur père trois vallées plus loin, sans perdre aucune brebis. Déjà, ils ont le sens des responsabilités. Ils doivent mémoriser des centaines d'espèces de plantes, savoir lesquelles sont bonnes pour le troupeau, lesquelles sont pas bonnes. Et je pense que tout ça fait beaucoup travailler leur mémoire. Et puis les enfants qui aujourd'hui sont connectés à Internet, pas plus tard qu'hier, je recevais des messages sur Instagram de deux des jeunes bergers, voient comment ça se passe ailleurs et savent que l'éducation, c'est vraiment le passeport pour la ville.
Ouais.
Donc leur espoir, c'est de quitter ce mode de vie nomade pour se sédentariser.
Ouais. On les voit passer dans la montagne un examen. L'instituteur, à la fin de la transhumance, leur fait passer un examen au milieu des chèvres. C'est vraiment saisissant, cette espèce de moment à la croisée un peu des chemins, parce que c'est ce que montre votre film, hein, cette jeune génération tiraillée entre les études, l'envie d'aller travailler en ville, de ne plus être berger, et puis ses parents qui se désolent de voir cette transhumance millénaire à laquelle ils sont très attachés en train de disparaître.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était la dernière transhumance.
Ouais.
La dernière transhumance pour cette famille. Il est arrivé plein de péripéties que je ne veux pas dévoiler ici, mais qui les ont contraints à dire, bon, ben, l'année prochaine, on utilise le camion.
Ouais. Ouais. Alors, ces aspirations et ces rêves de jeunes bergers, on les retrouve dans une de vos nouvelles. On n'est pas en Iran, cette fois. Ça se situe dans une autre montagne, celle du Ladakh. Et la nouvelle est très poétique. Elle s'intitule « L'enfant et la grue ». Que raconte-t-elle, cette nouvelle ?
Ah, elle raconte l'histoire d'un enfant qui est membre d'une grande fratrie et qui a été désigné par son père pour reprendre le troupeau, alors que tous ses frères et sœurs sont partis en ville. Et c'est exactement ce que j'ai vécu en Iran, finalement, dans cette fratrie de 18 enfants. Il y en a deux qui ont été choisis pour s'occuper du troupeau. Et du coup, ils ont vu partir avec beaucoup de jalousie, un peu d'aigreur, leurs frères et leurs sœurs en ville. J'ai transposé ça, d'une certaine manière, au Ladakh, dans le nord de l'Inde, où j'ai passé beaucoup de temps, à travers le destin de cet enfant qui, finalement, se fait une raison et accepte cet état des choses à travers le regard de son grand-père, qui est en fin de course, en bout de vie, et aussi à travers le destin d'un animal, d'une grue, qui se pose à côté de son village.
Mmh. On n'en dira pas plus. Elle a des allures de conte, hein, cette nouvelle. Elle est très jolie aussi. Vous aviez le sentiment qu'en utilisant la fiction, vous pourriez livrer une autre facette de la réalité de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui vivent dans ces montagnes d'Asie centrale. C'est une vision complémentaire de celle que donnent à voir vos documentaires.
Oui, tout à fait. Je pense que vous avez bien résumé les choses. Alors moi, toutes ces aventures m'ont nourri très profondément. C'est des aventures très fortes. Elles continuent à me nourrir aujourd'hui. Je voulais pas me répéter puisque j'en ai tiré des films. Je voulais aller plus loin. Et je trouvais que c'était une bonne manière, c'est-à-dire les coucher sur le papier. Je crois que c'est Kessel qui disait que finalement la fiction permet de retraduire la réalité de manière plus fidèle.
Ouais.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ces nouvelles, raconter les choses avec un peu plus de profondeur à certains endroits.
Ouais, il disait que dans tout roman, il y avait une part de reportage, Joseph Kessel. Et quand dans la dernière nouvelle de votre ouvrage, on voit surgir un taliban en fuite, confronté à un vieil ermite qui le sauve tout en lui tenant tête, vous nous emmenez là aussi dans une histoire que l'on n'attendait pas du tout. Je laisse aussi le plaisir de la découverte au lecteur. Le point commun de vos personnages, c'est que ils vivent tous en montagne, mais ils ont tous un cheminement, une montagne intérieure à gravir, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est la matrice de toutes ces nouvelles. La montagne, finalement, est peut-être le personnage principal. Et ensuite, je campe une galerie de personnes qui font face à l'adversité et parfois réussissent à se dépasser. Le titre du livre, Si haute soit la montagne, fait référence à un proverbe afghan qui dit que si haute soit la montagne, on y trouve toujours un chemin. Justement, c'est l'idée de se dépasser cette adversité.
Une dernière question sur la situation de l'Afghanistan. 6 mois après la reprise en main du pays par les talibans, les montagnes, selon vous, peuvent-elles être les poches de résistance?
La montagne a toujours été un lieu de résistance, à toutes les époques et dans toutes les géographies. Donc effectivement, la montagne est un refuge. Aujourd'hui, l'Afghanistan va très mal. Je ne sais pas ce qui va advenir demain de l'Afghanistan et des Afghans. Mais je sais qu'effectivement, dans les plis du relief, va subsister une certaine forme de résistance, de liberté, d'espoir. Et c'est aussi ça dont j'ai voulu témoigner dans la dernière nouvelle, notamment.
Merci, Louis Meunier. On va mettre sur la page Instagram du Temps d'un Bivouac quelques-unes de vos superbes photos des montagnes dont vous nous avez parlé dans cette émission. Je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles. Je le recommande sans réserve. Si haute soit la montagne, aux éditions Kalman-Lévy. Et puis pour voir certains des films documentaires dont on a passé des extraits dans cette émission, pour les voir en VOD, on va mettre un lien sur la page de l'émission sur France Inter. Un grand merci à vous, Louis Meunier.
Merci, Daniel Fievet.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast avec l'application Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.